Ah, bouchez-vous les oreilles, ou allez taper un spring dans la rue. Ça vous entraînera pour les mois agités, à venir après la fin du confinement, on l'espère. Mais si vous y consentez, vous pouvez même pousser le vice jusqu'à fermer vos 12 yeux de rêveur et de rêveuse, et vous laisser porter par les mots qui formeront ce conte urbain dont je vais tendrement vous faire la lecture. La nuit tombe sur la ville. Les seules sources lumineuses sont de vieux lampadaires bordant la rue de goudron mouillé. Çà et là, des flaques réfléchissent comme autant de penseurs mélancoliques les pâles auras des réverbères défectueux. Soudain, une bicyclette fend une flaque en un sillon parfait. Elle est suivie d'une deuxième qui esquive in extremis la tache d'eau. Plus loin, dans un léger bruissement de frein, les deux pilotes descendent de leur silencieux véhicule. Les vélos sont déposés contre un mur, gagnés par la pénombre. Les deux comparses s'apprêtent maintenant à escalader le grillage et son toit non moins grillagé. Chacun de leurs pas assurés déforme un peu plus la toiture de fortune. Les amis s'engouffrent dans une grande cage, par un petit trou, coupé sûrement à la scie à métaux par d'anciens voyageurs de la nuit. Une fois les camarades à l'intérieur, la première lampe frontale s'allume. La tête se tourne et est dirigée vers une grande benne rouge. Le faisceau lumineux suit. La deuxième lampe est vite allumée à son tour. Les sacs sont posés au sol, après avoir vérifié que celui-ci n'était pas mouillé ou pire, recouvert de divers jus collants et odorants à l'origine douteuse. Les quatre mains de nos deux compagnons sont posées de part et d'autre du couvercle, et celui-ci est ôté pour être posé à côté de la benne. Les faisceaux de lumière balayent le contenu du conteneur. Si les opportunités sont au rendez-vous, de petits « yes, regarde !» encore « hé » peuvent s'échapper de nos sournois glaneuses heureuses, glaneurs heureux. Attention à bien prononcer glaneuses heureuses et glaneurs heureux. Sinon, tel le pot de yaourt cabossé, le sac de pâte éventré, le plaisir est moindre. Et que de plaisir, justement, face à tant de fruits gratuits, de yaourts aux goûts infinis, de potirons à peine poqués, de croissants écrasés et de barquettes de poisson pané à de péremption à peine outrepassées. Combien d'estomacs ont-ils évité des nuits de vide? Combien d'étudiants ou de retraités ont-ils pu se délecter d'un ananas ou d'une mangue qu'ils n'auraient pas pu se payer sans devoir vendre leur force de travail à un quelconque patron déguisé en humain? Fièrement, je le pense, l'acte de récupération est un acte de piraterie des plus romantiques. Et quand le romantisme sait se faire pertinent, quel panache! Quel panache que celui de revenir à sa coloc de boucanier, les bras chargés de victuailles aussi molles que gratuites! Quel panache de voler les pires voleurs, partir à l'abordage de ces galions modernes que sont les grandes surfaces. Car même si les caravelles jouent Lidl la proue au gouvernail, sont défendues par des hordes des trois mousquetaires, ces butins, vus comme casinos romans, sont en vérité de géants trésors. Quelle joie de piller au champ des bruits nocturnes avec le clair de lune comme seule lumière. Et si fourberie de la part des trois mousquetaires il y a, car fourberie il y aura, spare le feu que nous nous réapproprierons ces denrées. Oui, fièrement, je le pense. L'acte de récupération est un acte révolutionnaire par essence même. C'est un peu un anarcho-bâton dans les roues de la diligence de l'économie libérale. C'est plusieurs gouttes de LSD dans le verre d'eau du discours d'investiture d'un Emmanuel Macron de type basique. Bref, nous savons que de ces poubelles nous vient une grande liberté. Mais la liberté n'en est une que lorsqu'elle est partagée, sans quoi c'est juste un privilège. Sachant cela, il ne nous reste plus qu'à construire une culture de la poubelle, de dédramatiser la poubelle, sa vie, ses mouches, son œuvre, et faire de cette pratique qu'est la récupération une fierté, un outil de plus pour la guerre de classe. Il y avait les sans-culottes, il y aura les manches poubelles. Je n'ai plus qu'à souhaiter une lente et douloureuse mort à tous les grands patrons des lobbies de commerce de l'alimentaire, d'agences de sécurité, de vente de barbelés ou encore de caméras de surveillance. Vive la piraterie et vive la classe ordurière!
Vous avez raté l'émission d'hier? Vous ne pourrez pas écouter celle de ce soir? Aucun problème, Radio Sonus, c'est aussi des podcasts en ligne sur covid19.cma-pdl.org, rubrique Radio Sonus. Covid19, C-O-V-I-D, 19.cmea-6, P-D-L-L, comme pays de la Loire, .org, O-R-G, rubrique Radio Sonus. Tu veux réagir ? Tu veux nous dire ce que tu penses de ce qu'on est en train de raconter ? Tu veux nous transmettre des messages ? Retrouve-nous sur notre chat. Pour ce faire, ouvrez une page internet et entrez dans la barre d'adresse chat.kumbit.net. Attention, j'appelle. Chat comme un chat. C-H. at.kumbit, K-O-U-M-B-I-T.net, N-E-T. À ce moment-là, la page va s'ouvrir et vous demander un pseudo. Ben, vous rentrez le pseudo que vous voulez, puis un canal où nous rejoindre. Ce canal, c'est hashtag, le hashtag c'est le dièse, radio, R-A-D-I-O, sans, S-A-N-S, nous, N-O-U-S, le tout sans espace, radio sans nous, sans espace entre les mots. En bas de votre page internet, vous avez une petite ligne sur laquelle vous pouvez écrire. Vous cliquez sur cette ligne, vous tapez votre texte, vous cliquez sur Entrée et hop, on peut vous lire. Et voilà, vous êtes avec nous. Radio sans nous.
Radio sans nous.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Dans quelques minutes, votre journal. J'espère que vous aimerez ce nouveau journal.
Plus d'images, plus de dialogues, plus de reportages directs. Nous avons pris des dispositions pour que le journal devienne un miroir qui se promène sur toutes les routes de France et du monde.
Radio sans nous.
Radio without us.
Radio bedonina.
A priori, ça concerne toute personne ayant des mains, un nez et une bouche.
Salut à tous et à toutes, ça y est, vous êtes en direct sur Radio Sans Nous. On est dans l'émission Tournée Générale, notre petite émission généraliste aujourd'hui. On a plusieurs annonces à vous faire avant de commencer cette émission. On voulait annoncer qu'on refait une soirée scène ouverte jeudi de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos contenus. Musical, blague, sketch, audio que vous auriez fait pour jeudi sur la boîte mail de radio.sansnous@cma-pdll.org avec scène ouverte comme objet du mail. Samedi soir, JB, tu avais une proposition de soirée radiophonique.
Ouais, alors on l'a déjà diffusé, mais il y a un film À nos corps défendants qui paraît sur YouTube. Qui parle des violences d'État et des violences policières. Ça a été diffusé dans la criée aujourd'hui. Je pense que ça sera rediffusé dans la criée de demain midi. Voilà, c'est sur YouTube. C'est un film qui devait sortir normalement dans les salles, mais comme ils n'ont pas pu passer faire leur tournée actuellement là, avec le réalisateur, la réalisatrice, ils l'envoient sur YouTube samedi soir. À nos corps défendants. Vous pouvez chercher ça sur Internet. Et il devrait y avoir les liens dans la criée, voire peut-être... ouais. Sur
Internet, ça se trouve. Et puis, nous venons de décider que nous décalons, alors peut-être pas à partir de dimanche prochain, mais au moins à partir de la semaine prochaine, cette émission tournée générale ne sera plus à 16h, mais le jeudi midi, à la place de l'émission du midi, et le dimanche midi, à la place de la rediffusion d'une émission de Vers l'éducation nouvelle. Voilà. Eh bien, peut-être on va vous dire qui est là aujourd'hui.
Toc, 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 qui est là?
Eh bien, il y a Manu.
Et JB.
Et Clo. On s'est fait lâcher par les autres. Oui. Pour cette émission, on avait envie de commencer un petit cycle qui risque de continuer sur les prochaines autour de la question du confinement, mais on avait envie de réfléchir à qu'est-ce que fait le confinement dans nos corps, dans nos têtes, dans nos collectifs, dans nos lieux de vie, etc. Et pour ça, on avait envie de creuser et de réfléchir à partir d'une alternance de témoignages qu'on pourrait récolter. Du coup, vous pouvez nous envoyer des témoignages et puis nous, on va aller en chercher aussi. Et puis, de trucs plutôt de textes, de sons ou d'images qui décalent un peu cette question-là. Du coup, on avait envie d'aller relire des textes de romans de SF, de romans. On avait envie d'aller interroger des gens en Palestine. On avait envie de plonger dans des bouquins ou des cours de philo. On avait, voilà, envie d'essayer de voir un peu comment on pouvait construire nos imaginaires aussi autour du confinement, et puis comment des trucs qui ont été pensés ailleurs ou qui ont été imaginés ailleurs pouvaient nourrir nos réflexions. Toujours plutôt dans un truc de on n'est pas des profs, on n'est pas des pros, et du coup on essaye d'appréhender ça dans une démarche d'éduc pop plutôt. Peut-être vous pouvez me compléter.
Ouais, c'est un peu une recherche-action, quoi. C'est quelque chose qu'on vit, et du coup, c'est d'aller chercher de la théorie dessus, de voir les vécus, de partager les vécus, d'aller rechercher de la théorie, et puis d'avancer là-dessus, quoi.
Peut-être de dire, on s'est listé quelques thématiques sur lesquelles ça pouvait nous intéresser de bosser, et du coup, il y a un peu des trucs sur la question des corps, de qu'est-ce que ça modifie sur notre rapport à nos corps. Il y a aussi des trucs sur dans nos collectifs de vie, peut-être ça change des choses suivant si on vit dans des collectifs larges ou des petits groupes ou en famille ou en couple, peut-être ça modifie des fonctionnements, enfin, des trucs dans nos vies. Peut-être ça modifie l'aménagement des lieux où on vit, enfin, et ça revient questionner la question des espaces d'intimité. Évidemment, on a envie aussi de causer de toutes les personnes qui n'ont pas de lieu d'intimité, de lieu de vie, etc. Ou qui n'ont pas choisi les lieux où elles vivent, qui les subissent. Enfin, voilà. Un peu nos pistes.
Et donc, l'idée, là, c'est cet après-midi de commencer à ouvrir ça, là, avec les petites recherches qu'on a faites, les petits sons qu'on a trouvés, les discussions qu'on va avoir. Mais c'est bien avec ce que vous allez marquer dans les chats, avec ce que vous allez envoyer aussi par mail, et puis comment nous trois, et puis avec d'autres, on va se mettre au travail, qu'on va avancer pendant ces petites semaines de confinement et peut-être après.
Et on commence tout de suite.
Voilà, par l'interview de Naba, auquel on est venu d'abord poser la question de comment est-ce qu'eux, ils ressentaient ça en Palestine, parce que quand on est allé les voir, ils parlaient pas mal du mur et de ce que le mur avait transformé dans leur quotidien. Et puis finalement, ça tourne sur une discussion aussi sur où est-ce que ça se fait quoi le corona en Palestine, et puis ça parle un peu évidemment de colonisation, tout ça, voilà. Donc on part pour une petite vingtaine de minutes de discussion avec Naba. Voilà, bonne écoute.
Ouais, en fait, nous on est en train de se dire là, ça fait une semaine qu'il y a le confinement, 15 jours, et que ça va transformer des choses dans notre manière de voir le monde. C'est-à-dire que du coup, on remarque déjà que quand on est dans la rue, on ne voit pas les voisins et voisines de la même manière. Et quand on croise des gens, des fois, il peut y avoir de la peur ou de se dire, tiens, est-ce que la personne n'est pas porteuse ? Ça change des choses comme ça. Et du coup, moi, je me rappelais de ce moment en Palestine où on nous expliquait quelque chose comme ça autour du mur. Je ne sais pas si tu peux en dire un peu plus.
Ouais. Je peux dire ça au niveau personnel en fait, parce que avant le deuxième intifada, j'ai parti avec mon père quelquefois à Jérusalem. C'était facile d'être prendre un taxi à Bethléem, direct, boum, il y a un checkpoint, mais tu passes facile à Jérusalem. Mais après le deuxième intifada, moi j'étais là-bas une fois en fait. Mais après le deuxième intifada, c'était bloqué. Au début, avant les murs, il y avait un checkpoint, mais tu ne peux pas passer. Pour moi, dans ma vie, j'ai vu qu'est-ce qu'il y a derrière ce checkpoint ou cette barrière. Donc, je suis capable d'imaginer qu'est-ce qui se passe derrière cette chose-là. Mais, par exemple, pour mes neveux, mes nièces, elles ne savent pas. Parce qu'elles ne sont jamais vues qu'est-ce qu'il y a derrière le mur. Donc, au niveau de discussion avec eux, c'est difficile à expliquer qu'est-ce qu'il y a et on était comment. Il est difficile pour eux d'imaginer qu'est-ce qui se passe là-bas. Au niveau du mur, et moi, quand, avant le mur, oui, je sais qu'il y a le terrain ici, il y a les olives. Mais pour les nouvelles générations, ils ne sont jamais vus qu'est-ce que c'est derrière le mur. En même temps, je peux connecter ça avec les histoires de ma grand-mère et mon père aussi. Parce que pendant le Nakba, la catastrophe en 1948, mon père toujours il raconte des histoires de son père, de les terrains, comment ils ont bougé, comment ils travaillaient comme un chauffeur dans un taxi, il part de Jérusalem, de Hébron, au Liban, en Syrie, au Jordanie, il n'y avait pas de mur. Pour moi, c'était une nostalgie qui est créée par mon père, par ma grand-mère. C'est pas pour moi, donc j'ai pas de l'expérience. Et maintenant, avec les murs, je pense que la mentalité de les gens de la nouvelle génération, elle est pas la même chose que notre mentalité. Parce que pour mon père, par exemple, le droit de retour, c'est de retour à son village d'origine. Mais pour moi, j'ai pas de cette relation avec mon village d'origine. J'aime bien de découvrir, d'aller là-bas, de voir comment mes grands-parents, mes grands-mères, elles sont habitées là-bas, comment elles sont faites. Mais je trouve pas cette lien direct avec ce village. Pour moi, le droit de retour maintenant, c'est de retour en Palestine, à la plage, à la montagne, à la mer, à la partout, tu vois, sans mur, sans barrière, sans checkpoint, sans tout ça. Et maintenant, j'imagine que pour la nouvelle génération, l'idée de libération, l'idée de d'être libre, c'est différent de notre idée aussi. Parce qu'elles sont nées dans une situation qu'il y a un couvre-feu, il y a la mur, il y a l'autorité palestinienne, il y a la police palestinienne, il y a les armées palestiniennes, même si on peut dire que c'est des armes ou des polices, c'est d'autres choses. Mais je pense que c'est la mentalité de la nouvelle génération, elle n'est pas la même mentalité de notre génération. Et maintenant, pendant le confinement de coronavirus, je pense que ça fait un mois, on peut dire, ou deux semaines, trois semaines, c'est pas, je vois pas que c'est un long temps pour changer la mentalité pour la génération qui habite maintenant. J'espère pas que la situation va rester comme ça, mais si elle va rester comme ça, la mentalité de la génération maintenant et la génération qui va venir va changer en niveau de relations sociales, relations amitié, relations partout quoi. Et maintenant, quand je vois sur l'internet et sur ça, les gens sont commencés de discuter sur le réseau social. Elle fait des apéros sur les réseaux sociaux. Tu vois, il y a beaucoup de mes amis qui ont fait un screenshot. Je sais pas comment on dit ça en français. Okay. Ils sont pris en photo pour eux. Il y a 4 ou 5 sur les caméras sur Facebook. Ensemble, ils boivent des bières. Ils partagent. Ah, moi j'ai bu cette bière, je mangeais ça. Donc je pense que le changement, il a commencé. Et il va être plus changé dans le futur pour la génération qui va venir. C'est la même chose que ce qui se passe avec nous comme génération. À part le premier intifada, le deuxième intifada, pour moi, quand mon père ou mon oncle, il me raconte des histoires de le premier intifada, pour moi, c'était... Oh, c'est une grande chose. Et je pense que maintenant, si je vais raconter des histoires au deuxième intifada pour une nouvelle génération, pour mes nièces ou mes neveux, je pense que pour eux, c'est « Waouh, c'était grand chose, c'était dangereux. » Mais pour nous, c'était la vie quotidienne, quoi. Et en relation à la coronavirus, je pense qu'il y aura de changements qui vont arriver, mais pas tout de suite. Je vois que c'est un besoin de plus de temps, quoi. Mmh. Mais le changement, c'est là, tu vois. Le changement, ça commençait déjà, mais pas trop. Mmh. C'est ça, qu'est-ce que je veux dire.
Et du coup, le changement, c'est un changement d'imaginaire, de ce que les gens y pensent, en réel ou en irréel, mais c'est aussi un changement de ce que les gens, les possibles, qu'ils peuvent faire, ou c'est...
Oui, le changement apporte beaucoup de signal aussi, tu vois. Par exemple, en Palestine, pour dire bonjour, on croise les mains, tu vois. Mmh. Ici, en France, tu fais les bises. Mais après le coronavirus, c'est les principales de la relation sociale va être changée. Peut-être maintenant, les gens en France va arrêter de faire les bises, tu vois. Ils va pas faire des bisous. Et ça dans le psychologiquement, c'est un signal. Je sais pas si c'est un dangereux, mais c'est un changement, tu vois. Parce que maintenant, tu veux pas baiser tes amis, tu veux pas rester très proche à tes amis ou à tes amoureux. Tu vois, c'est un peu le changement là. En Palestine, c'est la même chose. Maintenant, les gens, ils ont arrêté de toucher les mains pour dire bonjour. Il y a beaucoup d'attention, il fait beaucoup d'attention d'approcher les autres. Et ça change, c'est des petites choses, mais elles changent de grandes choses dans la relation sociale aussi. L'imaginaire à la relation maintenant, si la corona elle va rester plus de temps, va changer aussi. Parce que pour moi, et pour cette génération qui vire l'expérience avant les corona, c'est pas la même chose après les corona. Et la génération qui va arriver maintenant, qu'ils sont en train de grandir maintenant... Aussi, ça a une image différente, totalement différente. Parce que maintenant, si je ne vois pas que les gens, ils font les mains ou ils font les bises, bah oui, je vais être habitué de ça. Donc, c'est le normal pour moi, ce n'est pas le normal pour les gens qui font les bises, tu vois. C'est ça, parce que je ne sais pas si c'était clair ou pas.
Ah si, moi, il y a un autre moment en France, pour moi, c'était en 2015, quand il y a eu... entre guillemets, les attentats, par exemple Charlie Hebdo, Bataclan. Et je pense que la génération qui arrive aujourd'hui, mais ceux qui sont ados et jeunes adultes, ils sont vachement marqués par ça. Et du coup, c'est une relation particulière, je pense, à la police, c'est une relation particulière aux autres. Enfin, du coup, il y a quelque chose qui a changé aussi là-dedans.
Mais je pense, à part ça, c'est le mouvement social, les médias qu'il peut jouer dans ce secteur. Si le mouvement social il insiste de grandir les relations, de strengthen, je ne sais pas comment on dit ça.
Approfondir
les relations, de ne pas faire plus d'individualisme, tu vois. Si les médias, bah, malheureusement, les médias, ce n'est pas les médias pour les gens, c'est les médias. Les médias, c'est les médias qui présentent le système, tu vois, l'État, les républiques, les présidents. Le gouvernement. Mais s'il y a d'autres façons du média de prendre attention à cette manière de relation entre les gens, ça sera peut-être contrôlé, pas contrôlé, mais oui, contrôlé, de pas faire plus de séparation entre les gens. Parce que si tu imagines que chacun habite dans sa maison, chacun, il n'y a pas des amis, il n'y a pas de relations sociales, il n'y a pas de rencontres, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de crémaillère, il n'y a pas d'anniversaire, il n'y a rien quoi. Tout le monde ils sont chez eux, ils font toutes les choses à part distance. C'est pas une vie ça, tu vois. C'est pas, On peut pas vivre comme ça. Pour moi, je peux pas dire que je peux vivre dans une communauté, que je croise pas les gens, je parle pas avec les gens, je fais pas la fête, je sors pas. C'est un peu compliqué. Mais peut-être pour d'autres générations, ça sera normal. Parce qu'elles sont nées comme ça, elles sont vivent comme ça, elles sont faites comme ça, c'est normal pour eux. Mais pour nous, pour moi, personnellement, c'est pas possible. Et la différence entre Palestine et la France, peut-être on a parlé de ça avant, mais pour moi, honnêtement, je préfère que je suis confiné en Palestine, pas en France. Parce que si, oui, j'ai des amis, j'ai des relations avec beaucoup de gens, mais chacun chez lui. Chacun, il est confiné chez lui, il fait très attention. Et ça, c'est vrai, c'est nécessaire. Mais en Palestine, par exemple, dans notre camp réfugié de Déchets, il y a beaucoup de groupes de jeunes qui font des groupes pour aider les familles qui sont pauvres, les gens qui ne peuvent pas sortir pour acheter les courses, les gens qui ne peuvent pas aller de prendre ces médicaments pour les diabétiques.
Oui, le diabète.
Le diabète. Il y a beaucoup de gens qui vont laver son livre. Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est une maladie. Donc il y a un gros mouvement, c'était dans notre camp réfugié, pour aider les gens. Il y a des communautés, petites communautés entre les jeunes de Déchets, femmes et hommes, pour aider les communautés. Pour moi, ici, je ne sais pas si cet mouvement il existe en France ou pas, mais je ne vois pas que la communauté, les gens, pas la police, pas les plombiers, pas les médecins qui font ça, mais les gens, que les gens, ils font un mouvement social, ils bougent dans une maison à d'autres pour demander si vous avez besoin de quelque chose ou si on peut vous aider ou quelque chose. Ça, je n'ai pas vu que ça existe ici en France au minimum dans notre quartier peut-être, au Bougnay. Mais en ce moment en Palestine, qu'est-ce que je vois sur le Facebook et tout ça, il y a un gros mouvement dans chaque camp réfugié, surtout les camps réfugiés, Déchets et Aïda. Il y a une communauté, ils ont fait une coordination entre eux pour, oh oui, on a 100 familles qui ont besoin de manger, qui ont besoin de médicaments, qui ont besoin de je sais pas quoi. Et ça aussi, ça connectait avec la question de le changement de social aussi. Parce que maintenant, si les petits jeunes qui le voient ça, dans le futur, pour eux, c'est le normal. Tu vois, c'est le normal. Mais pour les gens ici, en France, les nouvelles jeunes, les petites jeunes, ils ne voient pas ça. Donc pour eux, c'est normal qu'on ne fait pas ça, tu vois. Mais en Palestine, oui, c'est nécessaire, on doit faire ça. Et toujours, c'était comme ça en Palestine. Donc, qu'est-ce que je vois, en fait, et je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est juste mon point de vue, c'est qu'en Palestine, la communauté, la relation sociale en Palestine, elle est plus forte qu'ici en France. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ça qu'est-ce que je vis, et c'est ça qu'est-ce que je vois, à part mon expérience ici en France. Voilà.
Et une autre peur qu'on a aussi là par rapport au confinement, avant le confinement il y avait des mouvements sociaux depuis des mois et des mois, et du coup là ils profitent du confinement aussi, mais pour des raisons sanitaires, de changer la loi du travail, de dire bon, voilà, les entreprises maintenant avec des accords, elles peuvent dire aux gens tiens, tu prends tes vacances maintenant, tu vas pouvoir travailler plus 45 heures mais un truc de 60 heures maximum dans certains trucs, voilà, plein de petites choses qui arrivent par la question du sanitaire, qui de une ne sont pas fixées dans le temps, donc elles continueront après, mais de deux, parce qu'il y a cette question sanitaire, du coup ça passe. Je sais pas si tu as des trucs comme ça aussi en Palestine ou
En Palestine c'est un peu plus compliqué, parce qu'en Palestine on n'est pas de ce système de travailleurs, employeurs, il n'y a pas de pôle emploi en Palestine. Il y a un pôle emploi mais il n'est pas très organisé, quoi. Donc il y a deux problèmes en Palestine. Pour les gens qui travaillent dans les territoires occupés, maintenant ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas y aller là-bas. Le deuxième problème, c'est les gens qui travaillent jour par jour. Si je travaille aujourd'hui, j'ai d'argent. Si je ne travaille pas, j'ai pas d'argent. Mmh. Et la troisième chose, c'est pour les taxis, les chauffeurs de taxi. Le chauffeur de taxi, s'il travaille aujourd'hui, il gagne d'argent. Si je ne travaille pas aujourd'hui, il ne gagne pas d'argent. La quatrième chose, c'est les prisonnières. Les prisonnières dans les prisons israéliennes. Il y a beaucoup de cas qui sont où le virus. À part le travail, le gouvernement il donne le salaire pour les professeurs dans l'école, les professeurs dans l'université, collège, médecins, infirmières et tout ça. Qui travaillent avec le gouvernement, ils sont toujours gagnés son salaire. Mmh. Mais pour d'autres gens, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de récin, il n'y a pas de prime d'activité. Ça n'existe pas en Palestine. Donc maintenant, c'est le premier mois de confinement en Palestine. Il y a maintenant, on a commencé la quatrième semaine en Palestine avec 160 cas de coronavirus. Il y a une qui est morte. Les gens sont peur. Plus de pas avoir d'argent, plus que la virus. Donc il y a des gens qui prennent le risque de sortir, d'aller travailler. Parce qu'on a besoin de manger, besoin d'acheter de lait pour ses enfants, besoin d'acheter des trucs pour la famille. Mais le gouvernement, il ne fait rien. Il peut pas faire, en fait. Il n'y a pas de système de dire, ah oui, toi, tu ne travailles pas, donc tu as le droit de chômage technique, par exemple. Mmh. Ça n'existe pas en Palestine. J'ai beaucoup de amis qui travaillent comme un chauffeur, qui travaille dans le territoire occupé. Hier, j'étais avec un contact avec un de mes amis. Il m'a dit, bah, moi, j'ai 2-3 000 shekels à côté. Ils sont finis maintenant. Sous moi, je vais demander à mon frère ou à ma famille pour m'aider. Mais le mois prochain, je ne sais rien à faire. Donc, je dois prendre les risques d'aller à l'extérieur de travail. Et ça, c'est le gros problème en Palestine. Okay? Parce qu'il y a beaucoup de secteurs, des gens qui ne sont pas enregistrés dans le gouvernement pour prendre l'aide. Et le gouvernement, il ne peut pas donner l'aide comme ça pour n'importe qui, parce qu'il n'y a pas de document, il n'y a pas de système.
Parce qu'en France aussi, il y a des travailleurs et travailleuses précaires. Il y a des gens qui sont auto-entrepreneurs, par exemple, c'est le nouveau statut, et du coup, qui ne vont pas avoir de revenus. Tu as des gens qui n'ont pas assez pour ouvrir des droits. Tu as des gens qui n'ont pas le droit d'ouvrir des droits parce qu'ils n'ont pas tel ou tel papier. Mais qu'est-ce qui fait que la situation en Palestine, elle est spécifique? Parce qu'on pourrait se dire, en Palestine, il y a un État. C'est l'histoire des Palestiniens. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas un système? Qu'est-ce qui fait que c'est spécifique en Palestine? C'est particulier. Pourquoi est-ce que, du coup, tu nous dis ça pour la Palestine, mais du coup, pourquoi est-ce que c'est plus difficile en Palestine qu'en France? Pourquoi est-ce que les gens, ils n'ont pas de contrat en Palestine? Pourquoi?
Parce qu'il y a, à la base, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Il n'y a pas d'opportunité pour travailler. Un travailleur, c'est à la base.
Et pourquoi est-ce que les gens, ils n'ont pas d'opportunité pour travailler?
Parce qu'il y a l'occupation des Israéliens qui bloque toutes les zones palestiniennes. Il y a la mur qui mangeait beaucoup de terrain de les Palestiniens. Il y a l'autorité palestinienne qui fait beaucoup de contrôle pour les industries, les mouvements politiques aussi. Si je ne suis pas dans cette partie, je ne peux pas travailler dans l'autorité palestinienne parce que je ne suis pas supporteur de l'autorité palestinienne. Mais à la base, c'est l'occupation, c'est les sionistes qui contrôle tout. Maintenant, la Palestine, c'est, il est où l'État de Palestine, en fait? Les Cisjordanie et Gaza. Gaza, elle est dans un blocage depuis 2007. Et maintenant, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien à Gaza. T'imagines si la coronavirus, elle va aller à Gaza? Il y a 2 millions habitants et habitantes qui habitent à Gaza dans 40 kilomètres carrés. 2 millions dans 40 kilomètres carrés bloqués par Israël, la mer et l'Égypte. Elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas entrer. Ça, c'est un problème. Pourquoi il n'y a pas de travail? Pourquoi il n'y a pas de contrat? Parce qu'en Palestine, Le système de travailleurs et travailleuses en Palestine, c'est pas assez, pas encore. Elles sont en train de créer et construire un système, mais par exemple, si quand je travaillais en Palestine dans un resto, j'ai pas signé un contrat. J'ai travaillé comme ça, tu vois. Et c'est légal, hein. C'est pas un problème. Si tu signes ou tu signes pas, en Palestine, c'est facile. Parce qu'il n'y a pas de système. Il n'y a pas de système parce que les traités palestiniens, ils ont commencé de faire ce système après 2004. Avant 2004, c'était les créations de l'autorité palestinienne, donc il n'y avait pas d'opportunité de créer ça. Et aussi, c'est une autorité palestinienne qui donne des services pour les Israéliens, c'est pour protéger les Palestiniens et protéger les Israéliens aussi, pour bloquer les Palestiniens de faire des manifestations, de troc contre les Israéliens aussi, parce qu'il y a les sécurité et coordination entre eux. Entre l'autorité palestinienne et le gouvernement israélien. En même temps, si maintenant l'autorité palestinienne, si on peut dire l'État de Palestine, ils sont décidés à faire une industrie pour le plastique, ils ne peuvent pas faire ça sans le permis d'Israël. Par exemple, en 2002, il y a, dans la mer à la Gaza, ils sont découvrir un place où il y a le gaz naturel. Je ne sais pas, ça s'appelle comment en français, mais le gaz. Donc, à cause de la corruption dans l'autorité palestinienne et à cause des Israéliens, jusqu'à maintenant, le gaz il est dans la mer et l'Israélien il fait de pipes.
Oui, il l'extrait quoi.
Des tubes pour voler cette gaz et les Palestiniens ne profitent pas parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas l'utilité.
Oui, ils ne peuvent pas l'utiliser. Quoi.
Ils n'ont pas le droit à l'accès. Bon, voilà, c'est ça. Okay. Donc, notre problème en Palestine, c'est l'occupation. S'il n'y a pas d'occupation, on est comme d'autres pays. On peut faire ce qu'on veut. Mais maintenant, il y a l'occupation d'Israël et l'autorité palestinienne qui contrôle tout, qui bloque tout. Mais, pour être honnête, pendant cette crise de coronavirus en Palestine, le gouvernement palestinien s'est joué les meilleures façons de protéger les gens. Ils ont commencé le confinement dans un bon moment. Il y a beaucoup, tous les médecins, les hôpitaux, la police, les armées palestiniennes sur la route pour protéger les gens, pour pas donner l'opportunité pour le virus pour aller plus que ça, tu vois. Donc en ce moment, on peut dire que le gouvernement palestinien, l'autorité palestinienne, il fait bien pour protéger les gens. Mais avant et après, on ne sait pas. C'est ça. Après, c'était le gouvernement palestinien qu'on sait. Il ne change rien, il ne fait rien pour nous, comme Palestiniens. Pour moi, c'est un point de vue personnel. Et après le corona, on ne sait pas. On ne voit pas le futur après le corona. Mais en ce moment, le gouvernement palestinien, il fait bien.
Voilà. Merci.
De rien.
Mon sens, ma boussole, ma devise. Mon exemple, mon symbole, ma direction. Ma route, mon emblème, ma logique. Ma référence, mon modèle, là où je puise. Toute mon inspiration, mon énergie. Ma foi, ma détermination. Un peuple, une terre qui force l'admiration. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de dire non, toujours debout. Malgré les exactions, les douleurs, les souffrances, les coups de bâton, toujours debout. Malgré les meurtrissures, jamais à genoux devant la pourriture. Palestine, ton courage est exemplaire, salutaire. Je t'envoie mes prières, Shab Palestine. Tu m'impressionnes, Aladielik, n'ayez de faire le microphone. Palestine, ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique, Huria. En Adjazeri, la résistance est en moi, Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts, la Palestine. Ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique, Huria. En Adjazeri, la résistance est en moi, Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts. Moi, j'ai pas suffisamment de vocabulaire pour te raconter à quoi ressemble l'enfer. De raconter Gaza et son calvaire, à quoi ressemble la vie après un raid militaire. Alors je tiens à mettre les choses au clair. Ma vision n'est pas humanitaire, ma position uniquement solidaire. Je suis toujours partial quand il s'agit de mes frères. Aucune ambiguïté, j'ai clairement choisi mon camp. Instinctivement pour les miens j'ai fait serment. Naturellement du côté de mes parents, du côté de mes ancêtres, du côté de mes enfants. Moi je suis du côté du dominé sans équivoque, du côté de l'oppressé, du côté du sans-voix, du côté de l'opprimé, du côté du tiers-monde et des peuples martyrisés. Palestine, ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique, Huria. En Adjazeri, la résistance est en moi, Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts, la Palestine. Ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique, Huria. En Adjazeri, la résistance est en moi, Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts. Je ne suis qu'une conséquence, un résultat, je ne suis qu'un héritier. On m'a pas donné le choix, on m'a seulement transmis le goût de la liberté, l'insoumission, l'indépendance et la fierté. On m'a transmis la colère, la dignité, l'insurrection, la révolte, la combativité. On m'a transmis la vigilance, la lucidité. On m'a transmis l'algérianité, donc rien à foutre de ton droit international. J'ai pas besoin de tes références occidentales pour savoir qu'Israël n'est qu'une machine coloniale, illicite, illégitime et illégale. Pour savoir que je déteste les nazis de Tsahal, ces acolytes des multinationales, tous ces alliés, ces complices criminels de New York, Buckingham, de Paris ou de Bruxelles. Palestine, ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique, Huria. En Adjazeri, la résistance est en moi, Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts, la Palestine. Ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique, Huria. En Adjazeri, la résistance est en moi, Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts, Palestine. Ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique, Huria. En Adjazeri, la résistance est en moi, Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts, la Palestine. Ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique, Huria. En Adjazeri, la résistance est en moi, Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts.
C'est génial. Ouais, bah voilà. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Sans Nous. Si jamais vous voulez réagir, c'est possible aussi par l'intermédiaire du chat. Et voilà. Et je ne sais pas si nous, on a des choses à dire. Là, on vient d'entendre du coup l'interview de Naba. Je ne sais pas si on a des réactions.
Eh ben ouais, moi, je veux bien y aller. Ce que dit Naba, moi, ça m'évoque. Enfin, il y a une partie de son analyse que je trouve intéressante, notamment sur. Ce qu'il explique sur la question des générations et que je trouve qu'est transposable avec peut-être ce qui va se passer là si on essaye un petit peu de se projeter, le fait que de dire je nais dans un état du monde qui est comme ça et du coup ça construit mon rapport à qu'est-ce qu'il est normal que le monde soit quoi. En l'occurrence pour les Palestiniens palestiniennes, il pose il y a des enjeux sur la question de la génération, de dire quel sens a le droit au retour pour moi si je suis né à tel moment ou à tel moment, qu'est-ce que ça produit chez moi si je suis né alors que le mur existait ou qu'il n'existait pas, et du coup la capacité à penser un monde autrement quoi. Et je trouve que ça a pas mal de liens avec la question là de ce qu'on vit et de qu'est-ce que va être la norme en fait, qu'est-ce que ça va produire dans ce rapport générationnel à l'état normal du monde quoi. Ça me parlait pas mal.
Mais ce qu'on se disait un peu dans une autre émission là, l'autre jour sur Charlie Hebdo, ça a généré la même chose. Enfin, et globalement la question des attentats et de l'état d'urgence, et que les personnes qui sont plus jeunes que nous et qui ont tout, enfin en tout cas qui ont grandi avec ça et qui ont toujours connu cet état de fait, elles perçoivent pas forcément le monde de la même manière.
Notamment sur la question par exemple des militaires. Ouais. Là où, au-delà de la critique de l'armée et tout, nous, à la rigueur, quand on était jeunes ou mômes, ce qu'il y avait comme écho pour les gens qui avaient été, qui n'avaient pas été réformés, c'était c'est un bon endroit pour passer ton permis, pour avoir des diplômes, pour des trucs comme ça. Mais globalement, enfin voilà, et à côté, il y avait le discours critique là-dessus. Et c'est vrai que depuis Charlie, ça fait un peu, ça a renforcé un peu cette notion de les militaires qui sont là pour protéger, mais qui sont là aussi, et que c'est une autre manière de servir les autres. Voilà, il y a une. Un truc comme ça qui vient changer. Alors j'ai l'impression que c'est pas autant rejoué là ces derniers temps, mais c'est vrai qu'il va forcément y avoir des effets. Je sais pas si c'est ce que vous disiez en zététique, comme les effets d'ancrage ou les effets de poser une balise, là, un référentiel à partir duquel penser, et ça vient transformer. On pense à partir de là, quoi.
Et si ce coup-ci ça s'applique pas de manière évidente pour l'instant au rapport à l'armée, ça il y a des chances que ça produise des choses assez profondes. Enfin, je sais pas, hein, moi je ferais peut-être ce pari-là, quoi. Que ça produise des choses assez profondes dans le rapport à l'espace public, à l'hygiène, au corps des autres. Alors, il va falloir peut-être faire en sorte que non, mais je veux dire, là, comme ça, a priori, j'aurais peur que ça produise ça, quoi.
Bah, moi, ça me paraît assez évident. Enfin, et puis Naba, il le dit un peu, là, dans l'interview, je trouve ce truc de, bah, oui, sûrement, ça va modifier notre manière de nous dire bonjour, par exemple.
Rien que ça, ouais.
Et que, mais en fait, c'est pas du tout rien. Enfin, je trouve que c'est hyper. Ça... bah, non, mais moi, par exemple, j'ai plutôt pas l'habitude de faire la bise aux gens, mais je trouve changer le mode de se dire bonjour dans une société, ben, ça dit plein de choses de nos rapports au corps, à l'autre, à qu'est-ce que c'est être en interaction sociale, etc., quoi. Et en même temps, en tout cas, mais c'est complètement. Individuel, et puis j'y ai pas beaucoup réfléchi. Je trouve depuis le début du confinement, dans les interactions sociales à distance que j'ai, là, plutôt du coup via internet ou le téléphone, les chats, les visioconférences, etc., ben, y a un truc où on s'autorise beaucoup plus du coup à verbaliser, mais ça peut être par écrit aussi, des trucs de se faire des bisous, s'envoyer des cœurs, enfin être vachement plus dans de la tendresse et de la gentillesse que dans d'autres moments. Et c'est assez étonnant. Après, non, peut-être que vous n'avez pas remarqué ça.
Si, si, bah, carrément, mais moi, c'est parce que j'ai peut-être moins la pratique du chat, et du coup, je me disais que c'était aussi une pratique qui était de chat et d'une manière aussi de se causer, parce qu'en fonction des espaces, il y a différentes manières de se causer. Et après, moi, l'autre question que ça me poserait, c'est je ne le verrais pas forcément contradictoire entre une transformation quand même de moi par rapport à la société, parce que là on parle bien de dans mon groupe social, qu'est-ce qu'on partage, et du coup il y a toujours ce truc, tu vois, cet envers et devant, parce que par exemple ça va changer notre rapport aux autres, au déplacement, mais du coup c'est aussi ce qu'on lit dans le rapport au déplacement. Et puis moi ce que j'ai vécu pour l'instant, à chaque fois que je me suis déplacé, alors j'ai pas vraiment croisé de keuf, du coup c'est-à-dire que dans le chemin, moi j'habite en périurbain dans un hameau, sur les chemins que j'ai fait, j'ai pas croisé de keuf. Et du coup c'est aussi dans mon quotidien à moi, mais du coup je me dis dans les trucs là, un peu pour faire le parallèle avec les militaires de Charlie Hebdo et tout ça là, c'est les flics qui font les contrôles, c'est pareil, on va leur donner une utilité sociale. Le flic qui fait le contrôle de la voiture, il sert à quelque chose pour la société, parce qu'il empêche le fraudeur ou la fraudeuse de passer, du coup toujours dans le dedans et dans le dehors, quoi. Et du coup peut-être que dans le dedans de mon groupe on va être vachement plus smoothie là, et puis dans le dehors, du coup, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça produit et qu'est-ce que je vais trouver normal ou pas.
Ouais. Ah ouais. Moi, ça m'évoque aussi la question de l'acceptation des comment dire, l'acceptation des technologies de contrôle, quoi. Enfin, tu vois, c'est toujours une situation d'urgence, enfin de crise, enfin la stratégie du choc, quoi, de Naomi Klein, un peu. Enfin, je veux dire, une situation de crise qui s'installe durablement et qui est une manière de gouverner. Qu'est-ce qui restera de l'état d'urgence sanitaire après, en termes à la fois de dispositif légal, de dispositif technologique, et puis d'acceptation de ces dispositifs par les personnes. Et de la même manière, je sais pas, moi j'entends à plusieurs moments là, des espèces d'éloges de la discipline, de l'autodiscipline et de la discipline collective auxquelles on aurait pu ne pas s'attendre que... la France se plie, quoi, et d'entendre Didier Raoult notamment, mais aussi d'autres, de dire ah ben c'est super, j'aurais jamais cru ça possible, les gens sont disciplinés. Fait chier, quoi, fait chier d'entendre ça, en fait. fait chier d'entendre dans ce contexte qui est particulier et auquel et moi-même je suis pas complètement étranger à ce sentiment de dire putain faut que les gens ils se disciplinent, mais sauf que non, enfin ça le fait pas, ça me questionne quoi, comme rapport collectif à l'autodiscipline quoi, merde.
Mais là ça me fait trop penser PEDA, ça me fait trop penser quand on fait des formations ou quand on prépare des colos ou quand on fait des formations là des équipes ou des animes qui vont préparer des colos et qui sont en train de faire leur projet, où t'as plein de gens, ils vont mettre assurer la sécurité des enfants, assurer la sécurité affective des enfants, et du coup t'es là, ils vont mettre ça en grand objectif. Un grand objectif c'est quoi? C'est vers la content. Et du coup à chaque fois moi je suis là, on est plusieurs quoi à se dire, mais en fait tu peux pas mettre ça comme un objectif. Toi ton objectif c'est quoi dans la vie? C'est-à-dire que assurer la sécurité, tu vas bien le teinter d'une manière ou d'une autre, et c'est bien, qu'est-ce que tu vises? Est-ce que tu vois, si tu vises que les gens ils puissent interagir avec qui ils veulent dans le groupe, est-ce que tu vises à que les gens ils puissent faire le maximum tout seul, est-ce que tu vises que les gens ils puissent apprendre des autres? Et du coup en fonction de ça, bah tu vas pas travailler la sécurité de la même manière pour que les gamins ils se sentent sécures et ils aient pas de risque. Et du coup c'est bien de se dire, est-ce que c'est le grand objectif, le truc vers lequel je vais, ou est-ce que c'est en fonction de la société, qu'est-ce que je veux dans la société, comment du coup je viens assurer la sécurité? Enfin, j'ai vachement ce truc-là qui me passe à cause.
Si, si, carrément. Mais moi, je crois que ça me causait pas mal. Et je me dis, ça peut nous permettre, sauf si vous avez d'autres choses que vous avez envie d'aborder, mais ça peut nous permettre de faire la transition avec la suite de l'émission. Mais ce que tu disais, Manu, vas-y. Sur comment ça va modifier des choses dans les villes, dans l'espace public, dans tout ça. On a commencé doucement pour ces émissions à écouter des cours de Foucault au Collège de France, qui a fait un cours en 78 sur sécurité, territoire et population. Et en gros, c'est un cours où il va essayer d'élaborer la notion de biopouvoir, biopolitique. Et voilà, du coup, dans une dynamique un peu d'arpentage et de recherche-action, on a découpé ce cours, on en a écouté des bouts, tout ça. Et du coup, c'était le premier cours d'un cycle de 12 cours dont on va vous passer un extrait. C'est le cours sur les mécanismes sécuritaires. Et c'est une partie où il aborde un peu l'histoire des technologies et comment les espaces publics se sont transformés avec les épidémies de peste, de variole et de lèpre. Et je vous propose de l'écouter.
Mais il y a une autre histoire, qui serait l'histoire des technologies, c'est-à-dire l'histoire beaucoup plus globale, mais bien entendu également beaucoup plus floue, des corrélations et des systèmes dominants qui font que dans une société donnée et pour tel et tel secteur donné, car ce n'est pas forcément toujours du même pas que dans tel ou tel secteur les choses vont évoluer, dans un moment donné, dans une société donnée, dans un pays donné, dans un moment donné, une technologie de sécurité, par exemple, va se mettre en place, reprenant en compte et faisant fonctionner à l'intérieur de sa tactique propre des éléments juridiques, des éléments disciplinaires, quelquefois même en les multipliant. On en a actuellement un exemple, si vous voulez, très net, toujours à propos de ce domaine de la pénalité. Il est certain que l'évolution toute contemporaine, non seulement de la problématique, de la manière dont on réfléchit la pénalité, mais également la manière dont on pratique la pénalité, il est clair que pour l'instant, depuis des années, pas une dizaine d'années, moins, la question se pose essentiellement en termes de sécurité. Au fond, l'économie et le rapport économique entre le coût de la répression et le coût de la délinquance est la question fondamentale. Or, ce qu'on voit, c'est que cette problématique a amené une telle inflation dans les techniques disciplinaires, qui pourtant est mise en place depuis très longtemps, que le point où le scandale, du moins la friction, est apparu, et où la blessure a été assez sensible pour provoquer des réactions violentes et réelles, ça a été cette multiplication disciplinaire. Autrement dit, c'est le disciplinaire qui, à l'époque même, où les mécanismes de sécurité sont en train de se mettre en place, c'est le disciplinaire qui a provoqué, non pas l'explosion, qui n'avait pas eu l'explosion, mais du moins les conflits les plus manifestes et les plus visibles. Donc, ce que je voudrais essayer de montrer là au cours de cette année, les années suivantes, ce que je voudrais essayer de montrer, c'est en quoi consiste cette technologie, ou quelques-unes de ces technologies disciplinaires, étant entendu que chacune d'entre elles consiste pour une large part en la réactivation et la transformation des techniques juridico-légales et des techniques disciplinaires dont je vous avais parlé les années précédentes. Bon, autre exemple que je vais simplement esquisser ici, mais pour introduire un autre ordre de problème, ou pour, si vous voulez, généraliser le problème. Bon, là encore, c'est des exemples, je les prends là parce que c'est des exemples dont on a déjà parlé 100 fois et qui sont familiers. Soit, si vous voulez, l'exclusion de l'épreuve au Moyen-Âge, jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Bon, c'est une exclusion qui se faisait essentiellement, bien qu'il y ait d'autres aspects aussi, se faisait essentiellement par un ensemble, là encore, juridique, de lois, de règlements, ensemble religieux aussi, rituels, bon, qui amenait en tout cas un partage, et un partage de type binaire entre ceux qui étaient lépreux et ceux qui ne l'étaient pas. Bon. Deuxième exemple, celui de la peste. Là encore, je vous en avais parlé, donc je reviens très très rapidement. Les règlements de peste, tels qu'on les voit formulés à la fin du Moyen-Âge, au XVIe et encore au XVIIe siècle, donnent une toute autre impression. Ils agissent tout autrement, ils ont une toute autre fin, et surtout de tout autre instrument. Il s'agit dans ces règlements de peste de quadriller littéralement les régions, les villes à l'intérieur desquelles il y a la peste, avec réglementation indiquant aux gens quand ils peuvent sortir, comment, à quelles heures, ce qu'ils doivent faire chez eux, quel type d'alimentation ils doivent avoir, leur interdisant tel et tel type de contact, les obligeant à se présenter à des inspecteurs, à ouvrir la maison aux inspecteurs. Voilà. C'est-à-dire qu'on a là un système qui est de type discipline. Troisième exemple, celui qu'on est en train d'étudier au séminaire actuellement, c'est-à-dire la variole, où, à partir du XVIIIe siècle et des pratiques d'inoculation, le problème se pose tout autrement, non pas tellement d'imposer une discipline, bien que la discipline sera appelée à la rescousse, mais le problème fondamental, ça va être de savoir combien de gens sont attaqués de variole, à quel âge, avec quels effets, quelle mortalité, quelle lésion, quelle séquelle, quel risque on prend à se faire inoculer, quelle est la probabilité selon laquelle un individu risquera de mourir ou d'être atteint de variole malgré l'inoculation, quels sont les effets statistiques sur la population en général. Bref, tout un problème qui n'est plus celui de l'exclusion comme dans la lèpre, qui n'est plus celui de la quarantaine comme dans la peste, qui va être le problème des épidémies et des campagnes médicales par lesquelles on essaie de juguler les phénomènes soit épidémiques, soit endémiques. Bon, là encore d'ailleurs, il suffit de voir l'ensemble législatif, les obligations disciplinaires que les mécanismes de sécurité modernes impliquent pour voir qu'il n'y a pas une succession loi plus discipline plus sécurité, mais la sécurité est une certaine manière d'ajouter, de faire fonctionner en plus des mécanismes proprement de sécurité, les vieilles armatures de la loi et de la discipline.
Un truc bizarre.
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà.
Ah.
la la la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
Dis donc.
La 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 la.
Tu sens pas le brûlé?
Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion...
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal.
Ah.
Tu comprends?
Ouais, ouais.
La 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 la.
Mais alors...
La la...
Mais...
La la la
la... La la la... La 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 la.
Qu'est-ce que tu voulais? La 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 la.
Non, je voulais savoir. Tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça?
Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs.
Ouais.
Alors le feu s'empare très facilement des matières.
Ouais.
Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah, un
c'est
incendie.
C'est normal.
Ouais, ouais, ouais.
Ouais. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
la
la. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Tu sens pas comme si on commençait à tomber là un
écoute,
peu?
Écoute, oui. Essaie de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens la combustion?
Ouais.
La destruction de l'immeuble par les flammes?
Oui.
Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien.
Ouais.
Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur, c'est normal. La 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 la.
Mais alors, on va tomber
la la la.
Du 15e étage?
C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. La.
D'accord.
La 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 la.
La 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 la, quoi? Quoi?
Pardon, mais je pense à un truc.
Ouais.
On va pas mourir dans une minute.
Brigitte, tu es fatigante.
Pardon.
Non. On est en train de tomber.
Oui.
Or, tout corps tombe à une vitesse définie.
Oui.
Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc,
ouais.
Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne et se tord.
Ouais.
Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir, c'est normal. Tu comprends?
Ouais, ouais.
Salut.
Vous êtes toujours sur Radio Sans Nous. On vient de s'écouter une petite musique de Areski, Belkacem et Brigitte Fontaine qui s'appelle C'est normal. Ça nous faisait un peu rire dans le contexte de chercher à expliquer ce qui se passe et ce qui se passe étant catastrophique. Enfin voilà, ça nous faisait rigoler. Avant ça, on a écouté donc un extrait d'un cours du Collège de France que Foucault faisait au Collège de France et ça nous faisait réagir un peu en off. Alors du coup, est-ce que JB, tu veux bien nous dire les réflexions que ça te faisait naître sur ce qu'on arrive à comprendre et ce qu'on n'arrive pas à comprendre, en tout cas comment nous fait écho ce que disait Foucault en 76?
Ouais, bah je sais plus trop sur laquelle des maladies c'était, je sais pas si c'était sur la peste ou quoi, mais du coup il y avait un moment où il parlait un peu des mesures qui étaient prises et il disait alors quelque chose qui pour moi nous semble très actuel là sur on demande aux gens de rester chez eux, on leur demande d'être dans une certaine forme de pratique d'alimentation ou nous on pourrait se dire d'hygiène du coup là qui se comprend très bien. Et pour moi il y avait une autre partie où je me dis en fait on n'a pas les clés aujourd'hui pour comprendre parce que les référentiels justement ils ont changé depuis le temps et c'était toute la partie là où il disait où il parlait peut-être un peu de statistiques et de on allait essayer de comprendre comment est-ce que ça arrivait aux gens, qui était plus susceptible de l'avoir ou quoi. Et du coup, il y avait tout un tas de trucs comme ça qui développaient pour expliciter le système que la peste ou je sais plus quelle maladie allait amener dans la société. La variole. Ouais. Mais qu'en réalité, bah, moi, j'ai l'impression qu'il est tellement déjà vécu par nous, tout ce système un peu de statistisation ou un truc comme ça de la société, là, et du coup, d'avoir plus de clés pour comprendre comment les gens vont, comment ça se passe, et du coup, de plus comprendre, donc plus contrôler, quoi. Enfin, j'ai l'impression que nous, on est déjà là-dedans, et que du coup, ça nous parle. J'aurais besoin de plus de. J'ai l'impression qu'on est déjà dedans, quoi. Et du coup, il y a eu ça qui a changé, quoi.
Et du coup, ce serait à rechercher, mais ça pose la question de est-ce que c'est pas justement cette épidémie-là, à ce moment-là, qui a produit le basculement, quoi.
À voir si c'est un basculement aussi net. J'ai l'impression que c'est des processus longs, quoi. Mais. Mais sûrement que ça marque un moment dans ce processus, quoi, qui doit être important. Et qui, moi, ça me parle pas mal, ce que tu dis sur l'impossibilité de penser de notre place. Vous voyez l'histoire de la grenouille qu'on met dans de l'eau bouillante et qui sort aussitôt de la casserole en se disant, il fait beaucoup trop chaud ici, c'est nul. Et puis, par contre, la version où on la met dans une eau froide et que petit à petit on fait chauffer et où elle a du mal à se rendre compte que l'eau chauffe. Et que l'eau est tiède, que l'eau est déjà bien, bien chaude, et ça me fait un peu penser à ça, quoi. On a du mal à penser en tout cas, ça demande un effort considérable de penser comme pas normal ou comme pas.
Pas logique, quoi. Qui va de soi. Par exemple, de faire des statistiques sur la population, parce qu'on se dit, c'est logique de faire des statistiques sur la population. Moi, j'avais une histoire comme ça sur le mouvement CPA, on occupait l'université. Et du coup, à un moment donné, ça s'est joué sur les bouteilles de gaz. On nous a dit, vous avez des bouteilles de gaz, donc du coup, c'est trop dangereux. Vous ne pouvez pas continuer à avoir votre cuisine collective. Mmh. Et voilà. Et du coup, ça semblait logique à tout le monde de se dire, tiens, on a des bouteilles de gaz, ça peut être dangereux. Ça peut être un argument qui va être pris juste de soi. Non, ce n'est pas politique, ce n'est pas pour empêcher le mouvement. C'est juste une bouteille de gaz, c'est trop dangereux. Alors que j'en discutais avec ma mère après, derrière, mais du coup... Dans les logiques, quoi, dans les années 60-70, tout le monde avait des bouteilles de gaz chez lui, chez elle, et voire même cette vieille méthode là que tout le monde utilisait pour savoir est-ce que t'as bien serré ta bouteille de gaz, tu serres la bouteille, t'allumes ton briquet, s'il y a de la flamme, tu coupes et puis tu sais que t'as pas assez serré, et s'il y a pas de flamme, c'est que c'est bon et que ta bouteille elle est bien foutue, quoi. Et après, si on va regarder le nombre de bouteilles de gaz qui explosent, finalement tu viens de dire pourquoi est-ce qu'on nous dit enlève ta cuisine collective à cause d'une bouteille de gaz, c'est pas la bouteille de gaz la raison. Du coup, je pense qu'il y a un truc comme ça à faire sur la question de statistisation de la population.
Mais je trouve c'est un peu le même phénomène là qui est en train de se passer. Et puis, je sais pas, j'ai juste lu le gros titre, mais sur le site du Monde, là, je voyais qu'il y a eu a priori un sondage sur est-ce que les Français et les Françaises seraient favorables à être géolocalisés via leur téléphone pour lutter contre la pandémie, quoi. Et que plutôt, a priori, la population française serait plutôt favorable à une mesure comme ça. Et moi, ça me fait un peu le même truc de... Mais en fait, s'ils veulent nous géolocaliser avec nos téléphones, c'est pas... L'épidémie, c'est un prétexte, quoi. Et que, en fait, la technologie, elle a tellement avancé que c'est possible matériellement de le faire depuis longtemps, qu'on sait, même si légalement, c'est pas forcément... légal, quoi, même si d'un point de vue législatif c'est pas légal de géolocaliser l'ensemble de la population, on sait qu'il y a les moyens matériels de le faire, et du coup on nous fait avaler la pilule avec une épidémie, quoi.
Alors sur la question de l'avis du sondage qui dit a priori la majorité voudrait bien que, ça demanderait d'aller regarder un petit peu, je sais pas, à minima, par contre, c'est l'introduction douce de ça, mais je veux dire, douce pas vraiment, mais progressive, quoi. Mais à minima, j'aurais besoin d'aller regarder un petit peu. Est-ce que la question, c'est un usage de metadata ou de. Est-ce qu'on va regarder globalement, c'est quoi les déplacements des populations pour une espèce de comme ça de méta-lecture des mouvements des populations pour repérer le développement de l'épidémie, ou est-ce qu'on est sur plutôt quelque chose. Alors, a priori, ce qui s'est fait un peu en Corée du Sud. De quand on a quelqu'un de malade, et de remonter l'ensemble des interactions qu'elle a
Ah, allô Manu?
Ah ouais, Manu.
Manu a été coupé. Eh bien, je pense qu'il voulait, sa phrase devait se finir sur regarder l'ensemble des interactions sociales qu'elle a pu avoir et du coup pouvoir alerter ces personnes-là, etc. En fait, c'est la question de est-ce qu'on est, on géolocalise des personnes ou est-ce qu'on géolocalise juste des appareils pour voir les mouvements de population. Manu risque de revenir bientôt. Mais peut-être on repérait d'autres choses là qu'on avait l'impression que, en tout cas, le confinement et puis la crise sanitaire.
Hop, là, je pense qu'on revient à la radio, mais je ne suis pas sûr. Mais il se passe toujours ça, en fait.
Ah là là, radio
quelqu'un part et quelqu'un revient. Voilà,
radio,
c'est bon, on est revenu.
Subit une censure terrible.
Voilà, c'est tout de suite quand on parle de Orange, de la quadrature du net et de l'impossibilité de suivre les déplacements de manière anonyme. C'était comme on l'explique, la quadrature du net. Il dit que c'est possible de savoir combien de personnes sont connectées à une antenne, et ça de manière anonyme, on compte. Mm-hmm. Mais pour savoir qu'une personne se déplace, il faut savoir quel numéro était à quelle antenne et après est vu à quelle autre antenne. Et du coup, un déplacement ne peut pas être vu de manière anonyme. Voilà. Du coup, c'est un peu cette démonstration qui était
faite. Oui, mais après, il y a la question de pour en faire l'analyse, on peut anonymiser ces données en correspondre un numéro de téléphone à une lettre, par exemple, enfin, j'en sais rien. Enfin, tu vois, on peut anonymiser ce merdier-là, mais la question n'est pas là. La question, c'est que c'est l'introduction, c'est la poursuite d'un processus de contrôle généralisé des populations avec ce genre de technique, quoi.
Mais après, sans vouloir chercher la petite bête, mais quand même un peu, si on dit on anonymise, c'est bien qu'à la base, ce n'est pas anonyme. Et du coup, c'est bien que c'est stocké quelque part comme non anonyme et que du coup, on peut remonter au comportement de la personne.
Évidemment.
Ok. Est-ce qu'on passe un petit peu à autre chose ?
Bah oui, parce que quand on parlait de ça avant, quand on avait préparé, on se disait les téléphones, mais on se disait les drones, les hélicoptères qui volent la nuit. Du coup, ça nous faisait un peu une ambiance de science-fiction. Pas trop ce que ça fait le lien.
Ça fait lien, on peut faire le lien comme ça. Pour la suite, on se disait la situation qu'on vit en ce moment, la question du confinement et de la pandémie, ça viendra agir sur les imaginaires, et donc du coup on avait envie un petit peu de mettre un peu de SF dans cette histoire de science-fiction. Alors du coup, moi je voulais vous causer d'un bouquin de Hugh Howey qui s'appelle Silo. C'est une série de 3 bouquins, en fait, qui date de 2014. Et je trouve qu'il y a des échos un peu marrants. Là, je vous raconte rapidement le synopsis. En gros, on est donc dans une... On est au sein d'une population qui est dans un silo, c'est-à-dire une espèce d'énorme cylindre en béton qui est enterré. Dans ce silo, il y a plus d'une centaine d'étages. Et monter tout en haut du silo, redescendre tout en bas du silo, ça prend plusieurs jours. Pour donner une idée de la taille. C'est-à-dire que c'est des étages super grands. Et, voilà. Et donc, il y a plusieurs milliers de personnes dans ce silo. Et ça fait des générations qui sont dans ce silo, qui sont confinées donc, dans ce silo. Il y a tout un rapport à l'histoire. C'est-à-dire qu'on n'a plus forcément une idée claire de pourquoi est-ce qu'on est confiné. On sait que le monde à l'extérieur est hostile. On ne sait pas forcément pourquoi. On sait pas forcément, voilà, on a perdu aussi pas mal de traces du processus qui nous a amené là. Et le seul regard qu'on a sur l'extérieur, c'est que tout en haut du silo, le silo affleure sur le monde extérieur, et on est au niveau du sol, quoi, en haut du silo. Et donc, il y a des capteurs, il y a des caméras en fait en haut du silo qui retransmettent dans la salle du dernier étage les images de l'extérieur. Donc, on voit un monde un peu dévasté, dans les teintes de brun, un peu comme ça. Et ce qui se passe, c'est que la sanction dans cette micro-société-là, la sanction un peu ultime, mais qui arrive assez vite, c'est le fait d'être condamné au nettoyage, c'est-à-dire qu'on va te mettre une combinaison et puis t'expulser en dehors du silo par un sas qu'on va décontaminer. Et la personne qui est ainsi condamnée au nettoyage va devoir aller nettoyer les capteurs des caméras. Et puis la personne meurt. Alors on voit par les caméras que la personne nettoie, on voit la personne ensuite s'effondrer et mourir. Parce que les combinaisons sont pas suffisamment résistantes pour tenir très longtemps. Et la question un petit peu du départ que tout le monde se pose, c'est mais pourquoi est-ce que les gens qu'on condamne au nettoyage nettoient ? C'est-à-dire que elles sont condamnées, elles ont été rejetées par leur père, et elles vont quand même leur rendre ce service, quoi, de leur éclairer l'horizon extérieur en nettoyant les caméras. Et de ce pourquoi vient naître un doute chez certaines personnes. Qui vient dire peut-être que c'est pas en fait peut-être que le monde extérieur est pas dans l'état dans lequel on nous le présente, et peut-être que donc il commence à trouver des indices un petit peu qui vont dans ce sens-là. Et je vais m'arrêter là dans la présentation parce que sinon je vais trop en dire. Là, je viens juste de vous dire le synopsis, les quelques premières pages, la présentation du contexte. Voilà. Mais il y a quand même ça, c'est qu'il y a tout un rapport à la question de l'insurrection. Il y a une histoire des insurrections dans ce silo, la question de l'histoire qu'en est faite ensuite et des traces qu'on en garde, etc., est un peu au cœur de cette histoire. Voilà pour Silo de Hugo Way. Ouais, okay. Silo de Hugo Way. Et donc, il y a trois tomes. Il y a Silo Origine, où on revient quelques centaines d'années en amont pour comprendre le processus qui a amené à la fabrication du silo. Et puis, on a ensuite Silo Génération, où on revient. Il y a des ponts. Je ne vais pas vous faire le détail, mais voilà. C'est super bien foutu. Je vous invite à le lire. C'est de la balle.
Trop bien.
Et petite précision, quand on vous invite à lire des livres et tout ça, bien sûr, on a en tête que surtout ne commandez pas des livres sur Amazon. Attendez que les librairies réouvrent, parce que sinon elles vont toutes mourir.
Ouais, ou emprunte-la à un voisin, une voisine.
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Voilà, bref.
Ça fait pas bosser quelqu'un si jamais toi t'es chez toi et que t'as le temps de lire des bouquins, quoi.
Voilà.
Quand on a discuté de l'émission, moi j'ai passé un coup de fil à Val. Et à Val, ça lui parlait la thématique qu'on voulait aborder, et il avait en tête un article. Et du coup, il proposait de le lire. Et du coup, on vous propose de l'écouter. Je vous l'envoie.
Salut à toutes, salut à tous. Donc, dans le cadre des émissions là de Radio Sans Nous, je voulais partager avec vous un texte d'un philosophe et sociologue de la gauche radicale, qui se nomme Geoffroy de la Gasnerie. Donc c'est un texte que j'ai vu circuler hier sur Facebook, et donc je voulais vous en faire la lecture, parce que je pense que dans cette période là où on nous dit à quoi penser, quoi faire, comment nous déplacer, comment ne pas nous déplacer, c'est important de continuer à penser le monde et à y réfléchir. Donc je commence la lecture du texte. Donc je voudrais ici livrer des impressions un peu dissonantes sur la période en cours, comme une manière d'exprimer un décalage par rapport à la situation. Tout le monde comprend la nécessité de prendre des mesures pour freiner la propagation du Covid-19, et il ne s'agit pas ici, évidemment, d'en mettre en question le principe. Mais les dispositifs sociaux sont toujours investis par des passions et des fantasmes collectifs. La lutte contre l'épidémie et la politique du confinement sont l'occasion à la résurgence de pulsions particulièrement problématiques. Des affects s'emparent de nous, presque à notre insu, qui structurent notre manière d'appréhender le présent et font régner une ambiance étouffante. Nous devons aujourd'hui nous méfier de nous-mêmes si nous ne voulons pas que les valeurs qui structurent notre rapport à la pandémie donnent naissance à un monde durablement irrespirable. Premièrement, nous devons d'abord nous méfier d'une certaine forme de dolorisme. Beaucoup s'indignent de voir à leur fenêtre des personnes marcher, faire du vélo ou du jogging pendant des heures. De nombreuses voix s'élèvent pour exiger un confinement total, voire un couvre-feu. L'injonction à rester chez toi et la nécessité de la distanciation sociale fournissent un prétexte pour renforcer les pulsions de contrôle de chacun sur chacun. Mais ces prises de position illustrent surtout une tendance à ne pas appréhender la lutte contre la maladie en termes rationnels. On se demande bien quel problème pose le fait que certains se baladent s'ils le veulent pendant des kilomètres, s'ils le souhaitent la nuit. Nous l'éprouvons comme une sorte de rituel d'expiation collective, comme cérémonie de la douleur à laquelle chacun devrait prendre part obligatoirement dans une logique sacrificielle. C'est presque comme si nous activions des schèmes magiques et primitifs. La souffrance collective comme cérémonie de rédemption qui nous assurerait la guérison rapide. Ces demandes sont souvent formulées en invoquant la souffrance des soignants. Des gens meurent, les soignants sont débordés, restez chez vous. Comme si, parce que les médecins et les infirmiers souffrent, il fallait que tout le monde souffre, et souffre le plus possible, même inutilement. La critique adressée à ceux qui ont rejoint leur résidence secondaire ou vivent leur confinement sur le mode des vacances est révélatrice de la même tendance. Deuxièmement, nous devons nous méfier de la tendance à faire comme si la maladie était une malédiction dotée de sens. Personne ne le formule aussi explicitement, mais nombreux sont les indices qui montrent la prégnance du schéma de l'épreuve et du « ce n'est pas un hasard ». Déjà, on voit les essayistes qui se précipitent pour désigner la pandémie comme occasion pour l'humanité de se réinventer, de transformer son rapport aux êtres et aux choses, de mettre en question la mondialisation, le mode de transport, le capitalisme, et qui travaillent à signifier ce qui nous arrive comme un fait malgré tout purificateur, heureux peut-être, comme une chance, et qui ne serait sans doute pas arrivé si nous n'avions sombré dans de tels égarements et excès. On dirait qu'ils s'en réjouissent. De nombreux discours sont arrimés à l'idée répugnante que la maladie est source de régénérescence. Cette perception apparaît dans le développement d'un naturalisme naïf qui voudrait que le règne animal et végétal retrouve aujourd'hui son harmonie maintenant que l'homme, être impur et dangereux, disparaît. Les vidéos se multiplient qui montrent une nature qui reprendrait ses droits suite à la disparition de l'homme de l'espace public. Dauphins, renards, loups, rats, pigeons, poissons en tout genre. De là à dire que la maladie est un processus vertueux, il n'y a qu'un pas. Un discours progressiste doit toujours affirmer l'axiome « une maladie n'a pas de sens, elle n'a pas de vertu, elle n'est jamais bénéfique ». Nous devons nous méfier du familialisme qui caractérise notre manière de faire régner l'obligation de distanciation sociale. Le confinement a produit un éclatement et une délégitimation de toutes les formes de vie non institutionnelles et familiales. L'autorisation de certains contacts et l'interdiction d'autres a produit une reconfiguration psychique des liens que chacun de nous entretient avec les autres. Certaines relations intimes ont été définies comme des relations étrangères que nous ne pouvons plus entretenir. Il est possible de vivre à 8 dans une maison si l'on est mari et femme avec enfants et grands-parents, mais deux amis célibataires ou amants qui n'habitent pas ensemble mais pourraient malgré tout être vus comme formant une petite unité domestique sont interdits de se voir. Un policier est placé entre eux. Le confinement redistribue le dedans et le dehors du cercle de la vie de manière brutalement institutionnelle, irrationnelle et désigne comme des étrangers qui n'ont plus vocation à se voir, toutes celles et ceux qui vivent autrement que selon le schéma de la famille nucléaire sous le même toit. Il est pensé de manière homogène et brutale, indépendamment des modes de vie et des conditions sociales. Le confinement tel qu'il est pensé dans sa forme actuelle accomplit le destin réactionnaire d'une éradication des relations non familiales et soutient une économie psychique qui, de fait, dévalorise symboliquement toutes ces formes de vie et les qualifie comme superflues avec les souffrances psychiques que cela occasionne mais que personne ne prend au sérieux pour évaluer les bénéfices du confinement. Seuls quelques articles se sont inquiétés par exemple de l'absence totale de réflexion sur la précarisation brutale des travailleurs du sexe. Comme un malheur ne vient jamais seul, l'épidémie est l'occasion à une multiplication des journaux de confinement publiés par les écrivains. Beaucoup s'en moquent parce que s'y expriment, et c'est vrai, toutes les formes de racisme de la culture. La mise en scène de soi dans son intérieur, à écouter de la musique, lire, écrire, travailler, jouer avec son chat ou ses enfants. Mais au-delà d'être des expressions naïves du contentement bourgeois d'être soi, qui définit depuis assez longtemps ce qu'on appelle la littérature française, ces textes révèlent une tendance que l'on observe dans toutes les classes sociales, la présentation de cette période comme moment de recentrement sur l'essentiel, sur les petits bonheurs de la vie simple et familiale, comme les plaisirs artificiels et corrupteurs de la vie d'avant, sorties, boissons, etc. Nous devons nous méfier des valeurs de l'antimodernité auxquelles nous recourons pour donner sens à notre manière de vivre le confinement. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié la politisation critique du confinement que François Ruffin a lancé hier. Si nous sommes enfermés aujourd'hui, ce n'est pas à cause du virus, c'est à cause de leur nullité. Parce que la France est dépourvue de tests, malgré les semaines qu'avaient nos dirigeants pour observer la Chine, l'Italie et nous préparer. Enfin, nous devons Nous devons enfin nous méfier de la résurgence de l'affect national. La diffusion du risque épidémique produit une intensification terrifiante de sentiments de l'appartenance de chacun à un corps national auquel il doit des obligations, avec toutes les conséquences autoritaires qui découlent toujours d'une telle perception. Déjà, on observe le plaisir des uns à exercer du pouvoir sur les autres au nom de cet esprit collectif. Une surveillance généralisée des comportements s'est mise en place. De nombreux faits de délation envers des individus qui ne respectaient pas le confinement ont été reportés. J'ai vu moi-même un individu se faire crier dessus parce qu'il marchait dans la rue sans masque. Cette intolérance aux petites déviations et cette surréaction aux déviances sont typiques des sociétés traditionnelles dans lesquelles s'accroît l'emprise de la conscience collective sur les consciences individuelles. L'appréhension de ce qui arrive comme nécessitant une mobilisation nationale explique pourquoi les gouvernements se sentent autorisés à mettre en place les mesures les plus régressives sans aucune limite. Envoyer des personnes dans les champs, défaire le droit du travail pour les plus exploités, déroger à la Constitution, démanteler la procédure pénale et les droits de la défense, renforcer les pouvoirs de la police. À cet égard, il est possible que les scènes d'applaudissements pour les personnels de santé auxquelles nous assistons tous les soirs à 20h, aussi bien intentionnées soient-elles, même si elles sont exaspérantes car s'y joignent de nombreuses personnes qui, ayant voté pour les partis qui ont mis en place les programmes de démantèlement de l'hôpital public, sont aussi responsables de ce qui arrive, constituent l'une des modalités de renforcement de cette aspiration purement fictive à la fusion dans une communauté soudée et intensifie des affects qui vont moins dans le sens de la formulation d'une politique oppositionnelle relationnel, rationnel que dans celui de la mise en place de mesures autoritaires, privatives de libertés individuelles et de sacrifices des classes dominées au nom de l'intérêt national. C'est la raison pour laquelle tant de gens de droite applaudissent. Ils savent que les affects qui découlent de telles scènes débouchent en général sur des politiques qui vont dans le sens de leurs intérêts. Il y a toujours de multiples manières de traverser une crise et de vivre ce qui arrive. La droitisation des sociétés qui s'accélérait avant l'épidémie ne s'est pas arrêtée comme par magie il y a quelques semaines. Ce processus est toujours en cours, il s'accroît même. Nos manières de nous rapporter à ce qui arrive marquent un triomphe des valeurs qui la définissent. Dolorisme, familialisme, naturalisme, intolérance aux petites déviances, nationalisme, etc. Aujourd'hui, l'épidémie est effrayante parce que, en plus des dommages physiques qu'elle provoque, tout indique qu'elle nous entraîne vers l'émergence d'une gouvernementalité qui détruit la vie à travers des formes de cannibalisme moral, d'antimodernisme et de soumission nationaliste. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lifes of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme
song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Zététique. Peut-elle casser des briques?
Quoi?
Non, je sais.
Un toast aux exploités pour l'extermination des exploiteurs.
Le savoir est une arme, instruction massive.
Ouais, tu calmes.
Souviens-toi que c'est le vainqueur qui rédige les livres d'histoire.
Une épitaphe pour quelques copains.
Non, je sais.
Et c'est parti pour la rubrique zététique. Et sans transition. Alors, aujourd'hui, on n'avait pas spécialement un sujet particulier qu'on avait bossé à vous raconter sur la rubrique zététique. Alors, ce que je propose de faire, c'est de vous donner quelques nouvelles de ce sur quoi est-ce qu'on bosse, pour commencer, et puis après de faire un autre petit truc. On a publié ces jours-ci deux articles sur le blog que je vous invite à aller voir sur, en fait, qu'annonce une série d'articles sur la question de la représentation des données, de la manière dont on, quelles données est-ce qu'on a pour penser l'épidémie en ce moment et notamment pour évaluer les politiques publiques, un peu ces trucs-là. Et comment est-ce qu'elles sont représentées? C'est toujours plus compliqué de se faire un avis, de porter une analyse sur un tableau de données que sur une représentation graphique des données. Donc du coup, il y a beaucoup de représentations graphiques des données qui sont produites. Et du coup, nous, on se proposait de faire deux trucs. On se proposait d'en faire un peu, trois trucs même, d'en faire un peu une critique de regarder un petit peu quelques biais qui sont liés à la représentation graphique des données, quelques pièges dans lesquels c'est facile de tomber dans la fabrication ou dans l'interprétation de ces données, de ces graphiques. Et puis aussi d'interroger à partir de quelles données est-ce qu'on produit ces graphiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va regarder en fait dans la situation comme données. Et du coup, en faisant ça, nous on a bossé sur un graphique nous aussi, parce que ça nous faisait marrer et parce qu'on trouvait ça intéressant de le faire. Qui va être publié bientôt et où ça consiste à regarder plutôt que de regarder le nombre de morts dans chaque pays, de regarder le nombre de morts rapportés à la population et les nombres de morts produits par l'épidémie, j'entends. Et ce que ça permet de voir notamment, c'est que il y a plein de petits pays, entre guillemets, en termes de population, donc notamment la Belgique, les Pays-Bas, etc., qu'on regarde assez peu et pour lesquels l'épidémie est en fait bien bien avancée et bien impactant quand tu le rapportes à la population. Voilà, donc on se proposait de produire un petit peu cet outil-là, de le mettre à jour et d'en discuter. Et puis derrière, on voulait aussi produire des articles sur quelles conséquences est-ce qu'il faut en tirer, c'est-à-dire... en gros, c'est de dire que la science n'est pas directement prescriptive et doit pas l'être. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une collection de données qu'il faut analyser, l'analyse c'est la question politique, c'est pas la question scientifique. Et donc que il y a différentes, il y aura plein de mesures possibles à tirer de cette après épidémie et que il y en aura sûrement pas qu'une possible. Pas qu'une analyse et qu'une manière de prendre les conséquences possibles. Et que un des risques, c'est que ce soit un peu confisqué par les experts sur quelque chose du côté de l'analyse des données prouve que, et donc il faut faire ça. Voilà. Donc on va essayer de sortir ces articles petit à petit. Il y en a déjà qui sont sortis. Je vous invite à aller les regarder sur covid19.cma-pdll.org. Et puis pour conclure, hier c'était le 1er avril. Et il y a un peu une coutume de dire que le 1er avril, c'est un jour génial pour les personnes qui font de la zététique parce que on est dans une situation où tout le monde porte un regard critique sur les données qu'elle voit, sur les informations qui leur parviennent. Tout le monde se méfie ce jour-là. Et puis bah, le 2 avril, globalement, beaucoup moins. Et le 31 mars, beaucoup moins aussi. Et du coup, c'est de dire que peut-être cette méfiance qu'on a le 1er avril aux informations qu'on voit, etc., les précautions qu'on prend avant de partager, avant de prendre pour acquis un truc qu'on a croisé dans le fond des internets, et ben voilà, on vérifie, on doute, on regarde, on va croiser. Cette posture que pas mal de gens ont le 1er avril, on trouverait intéressant qu'elle s'étende aux 364 autres jours de l'année. Ce serait pas mal. Et voilà pour la rubrique zététique. Elle fut courte aujourd'hui. On fera mieux la prochaine fois. L'émission se termine. On va vous laisser pour aujourd'hui. Est-ce que tu as un dernier mot, Clo?
Eh bien, on se retrouve à 20h pour le petit message de solidarité ou de colère. Et puis à 20h05 pour des histoires et des chansons pour enfants. Et voilà.
Tout à fait. Et on retrouve la prochaine émission Tournée Générale dimanche, soit à midi, soit à 16h. C'est pas encore complètement défini, je crois.
Mais non, pas tout à fait. Mais en tout cas,
de toute façon, à midi, dans tous les cas, il y a une émission à midi.
Voilà. C'est ça. Et n'hésitez toujours pas à nous faire parvenir des textes, des sons et tout ça par mail à radio.sansnous@cma-pdll.org parce que ça fait toujours plaisir de recevoir des trucs et que, en tout cas, nous, on prend beaucoup de plaisir à utiliser la radio comme outil d'éducation populaire et de solidarité entre nous. Voilà. C'est ce qu'on se disait un peu en off tout à l'heure. Alors.
Ok, et ben bonne fin de journée à tout le monde. Bye bye.
Salut.